Et on le retrouve, il est là au bout du fil, Olivier Beauregard, bonjour.
Salut.
Plusieurs choses dans le monde sportif cette semaine, mais on va revenir tout d'abord sur cette Journée internationale des droits des femmes qui a eu lieu mardi pour rendre un petit hommage aux femmes dans le sport aujourd'hui.
Oui, absolument, parce que il y en a plusieurs d'entre elles qui ont réussi au fil des ans à faire leur place, puis qui continuent aussi à faire leur place. Puis je dirais qu'il y en a plusieurs qui ont pavé le chemin à des femmes aujourd'hui. Puis c'est drôle, hein, pendant qu'on se parle, aujourd'hui, du côté des Olympiques de Gatineau, là, l'organisation pour laquelle je travaille, on a rappelé une gardienne de but pour le match de samedi. Mm-hmm. On n'a pas vu ça souvent dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais ça montre à quel point il y a une ouverture, les gens sont contents, on sent l'excitation, puis ça, c'est grâce à des femmes qui ont pavé la voie. Tu sais, je pense à des Charline Labonté, Caroline Ouellette, des filles qui ont décidé d'un peu pousser les barrières du hockey pour justement faire leur place. Puis aujourd'hui, on le voit, dans les instances des équipes de la Ligue nationale, il y a plus en plus de femmes qui font leur place. Mm-hmm. Je pense d'abord à Chantal Maccabée. Chantal, oui. Moi, j'ai été chanceux, je l'ai côtoyée, j'ai travaillé avec elle et c'est une personne extraordinaire. Ça a été une journaliste tellement tellement bonne, tellement aguerrie, tu sais, pointilleuse dans sa façon de travailler. Elle a peut-être même été plus pointilleuse que plusieurs journalistes que je connais masculins parce qu'elle, si elle voulait aller chercher sa crédibilité, Sébastien, là, elle pouvait pas se tromper. Mm-hmm. Elle n'avait pas le droit de se tromper. C'est malheureux, là, mais c'est la réalité. Et elle a vraiment été une pionnière au Québec pour les journalistes, les journalistes, les femmes journalistes sportifs parce que il n'y en avait pas quand elle est arrivée en 1983, puis quand elle a lancé la chaîne d'RDS en 89. C'est vraiment elle qui est la pionnière au Québec. Puis aujourd'hui, elle occupe non pas moins que le poste de VP des communications du Canadien de Montréal. C'est l'un des postes les plus importants, les plus prestigieux, pas dans le monde du hockey, mais au Québec. Mm-hmm. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je suis vraiment fier de voir que dans le monde du sport, il y a de plus en plus de femmes qui pavent la voie. Je pense aussi dans d'autres sports là, que le hockey. Tu sais, la boxe, Marie-Ève Piquière, Kim Clavel, qui va se battre en fin de semaine, sont des femmes fortes, sont des femmes qui ont fait leur place dans ce monde-là également. Moi, ça m'impressionne. Puis je suis content qu'en 2022, on peut dire qu'il y a une belle ouverture par rapport à ça, qu'on peut s'impliquer des femmes, tu sais, dans la Ligue nationale, dans la NFL, au baseball également, on est en train d'amener des femmes dans les instances des bureaux des ligues sportives. Donc moi, je trouve que ça, c'est important parce que ça montre justement la diversité puis ça va chercher la force de tout le monde. Mm-hmm. C'est pas vrai que les femmes peuvent pas comprendre le sport qui est majoritairement ou uniquement joué par des hommes. Pour moi, c'est une pensée unique, c'est une pensée en tunnel qui est vraiment pas bonne. J'ai côtoyé tellement de femmes dans le monde sportif, quand j'ai travaillé comme journaliste sportif à la couverture soit du hockey, tu sais, je pense à plein d'autres femmes, Kim Vallière de Radio-Canada, mm-hmm. ici à Gatineau, Ottawa, qui avec qui j'ai couvert les séries des Sénateurs d'Ottawa en 2017. Tu sais, elle a rien envie à personne, un travail remarquable. Alors aujourd'hui, je voulais juste donner un petit coup de chapeau à ces femmes-là qui m'impressionnent, qui m'inspirent, puis je suis vraiment content de pouvoir les côtoyer sur une base quotidienne. Puis je suis content, comme je le disais, qu'en 2022, il y a une ouverture de les accueillir dans le monde, dans les instances, dans les bureaux, puis dans les postes les plus prestigieux des organisations sportives.
Voilà, le message est lancé. Je pense qu'il est, il sera bien saisi. Maintenant, parlons d'Arturi Lehkonen, parce que sa valeur augmente. C'est ce que tu me soulignais en entrant en onde. Ça monte, les chiffres augmentent.
Non, c'est incroyable. Puis, dire qu'il y a 2 ans, ce gars-là, personne ne voulait le voir à Montréal. On était prêt à l'échanger contre un paquet de rondelles. C'était pas quelqu'un qui faisait l'unanimité dans sa façon de jouer. C'était pas nécessairement un gars non plus qui avait des talents offensifs. Mais c'est un travailleur acharné. Et là, je sais pas c'est quoi qui fait en sorte que là, en ce moment, ça fonctionne pour lui. Mais écoute, ça, il y a vraiment une tournure offensive dans son cas. 2 buts hier contre les Canucks de Vancouver. C'est pas n'importe quoi comme statistique. Là, on parle de 6 buts, 2 passes à ses 5 derniers matchs. C'est un gars qui commence à avoir un flair offensif semble avoir trouvé une certaine confiance et surtout une constance dans son jeu, ce qui fait en sorte que c'est un probablement des joueurs qui sera le plus convoité au marché des transactions pour compléter une équipe qui veut aller jusqu'au bout, tu sais, une équipe qui aspire à se rendre à la finale de la Coupe Stanley et finalement la remporter. Donc je pense qu'Arturi Lehkonen, c'est une carte cachée que le Canadien possède pour les transactions, pour cette reconstruction-là. Je pense que c'est un gars qui est intéressant à essayer de transiger, à essayer de marchander un peu avec les équipes, à dire écoutez, vous voulez avoir de la profondeur, vous voulez avoir un joueur qui peut vous permettre justement de gagner une coupe, pas à lui seul, évidemment, on s'entend, mais ça reste que c'est un pion important, et ce sera intéressant de voir c'est quoi la surenchère qu'on peut avoir pour un gars comme Mekonnen du côté du Canadien. Là. Peut-être que le Canadien va être en mesure d'aller chercher un choix de deuxième ronde et un espoir d'importance. Est-ce que le Canadien va être capable d'aller chercher un espoir de premier plan, ou est-ce que le Canadien va être capable d'aller chercher un choix de première ronde? Tu sais, il y a beaucoup de spéculation entourant ça, mais encore là, on ne sait pas ce que le marché a de l'air, parce qu'il n'y a pas eu de grosses transactions, il n'y a pas eu des transactions majeures. Il y en a eu quelques-unes là, depuis le début de la saison, mais rien pour pouvoir dire « OK, on peut se baser là-dessus pour la suite des choses ». Mais je pense que Arturi Lehkonen est en train de donner beaucoup d'options à des gars comme Gorton et à des gars comme Hughes là, avec le Canadien. Je pense que ça va faire en sorte que on va pouvoir prendre le temps de le marchander et de voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour lui. Mais chose certaine, c'est drôle, hein? Des fois, ça prend un changement de garde pour changer un joueur, sauf qu'en même temps, pas nécessairement l'effet Martin Saint-Louis, parce qu'Arturi Lehkonen, c'est probablement le meilleur joueur à l'attaque là, chez le Canadien cette saison. Avant justement l'arrivée de Martin Saint-Louis, c'était le gars qui était le plus constant également dans son jeu. Heureusement qu'il était là, parce que quand ça allait vraiment mal, là, c'est à peu près la seule bonne nouvelle du Canadien. Et là, évidemment, là, bon, l'essor de Cole Caulfield, Nick Suzuki, pas besoin d'en parler. Là, on sait que ces gars-là ont retrouvé leur aplomb, mais moi, je pense que Lehkonen, ça va devenir un joueur très intéressant. Pas vieux non plus, ça peut être intéressant pour des équipes qui sont sur une phase de reconstruction, mais plus mature. C'est pas au départ comme le Canadien, mais je pense aux Rangers de New York qui, eux, tentent d'y aller là, dans les prochaines années. Alors moi, je pense que ça peut devenir une option vraiment intéressante, un gars comme Arturi Lehkonen.
Et sinon, on va terminer ça en football avec rien de moins qu'une entente qui deviendra, qui fera en sorte que Aaron Rodgers sera le joueur le mieux payé de l'histoire de la NFL.
Oui, et moi, la semaine dernière, rappelle-toi, je croyais que c'était terminé.
Oui, on parlait de retraite, là.
Oui, il n'y avait rien qui indiquait que ce gars-là voulait rester, en tout cas encore moins avec les Packers de Green Bay. Là, moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais finalement, il ira nulle part. Il vient de signer un contrat de 4 ans évalué à 200 millions de dollars. Écoute, ça n'a pas de sens. Il y a 153 millions de dollars là-dedans, Sébastien, qui serait garanti. Ça veut dire que si ce gars-là se blesse, que sa carrière doit se terminer plus rapidement que son contrat de 4 ans.
Il est correct, là.
Ouais. Je pense qu'il va être capable de payer ses impôts.
Ça devrait être bon.
Mais écoute, à 38 ans, il devient le joueur, comme tu l'as dit, le mieux payé de l'histoire de la NFL. Il diminue également le plafond salarial de sa formation. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant pour les Packers, parce que Aaron Rodgers a connu une belle saison avec les Packers après un retour, rappelle-toi, à Green Bay, où on se demandait même si Aaron Rodgers n'avait pas un conflit avec l'organisation. Il est retourné, puis finalement, les Packers ont connu vraiment une belle saison. Alors, ça nous dit deux choses. Là. Ça nous dit que la mésentente entre Aaron Rodgers et les Packers est bel et bien terminée, parce que il y avait des rumeurs de transactions qui étaient permanente depuis les deux dernières années. On parlait d'un pack aussi, là, on voulait lui donner à un certain moment une centaine de millions de dollars qu'il aurait refusé. Alors, tu sais, ça devenait un petit peu étrange ce qui se passait. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais chose certaine, ça va être intéressant. Ça veut dire que Rodgers va entamer sa 18e saison avec les Packers. Lui qui a été choisi au repêchage en 2005 de la NFL, là, tu sais, ça fait longtemps qu'il est là. Mais c'est un gars qui a une carrière phénoménale. Écoute, il a été sélectionné au Pro Bowl à 10 reprises, champion du Super Bowl en 2011. Il est au 5e rang de l'histoire avec 449 passes de toucher. C'est une étoile là, dans la NFL. Et moi, je pense que ce gars-là peut encore donner du bon football aux Packers, qui devront, par exemple, se tourner éventuellement vers l'avenir, puis peut-être se concentrer sur l'évolution d'un futur corps arrière. Parce que c'est correct qu'il était Aaron Rodgers pour 4 ans, mais il ne rajeunit pas. Mm-hmm. C'est pas vrai que tous les corps arrière sont comme Tom Brady, capables de jouer jusqu'à presque 45 ans.
Non.
Tu sais, un moment donné, il va falloir qu'on prépare l'avenir, parce qu'après ça, c'est là que ça commence à faire mal.
Ouais, le choc pourrait être brutal, mais pour l'instant, ils ont bien confiance, puis ils ont mis les gros sous pour s'assurer de sa présence pour les prochaines années.
Oui, monsieur, j'ai l'impression que ce ne sera pas difficile de faire le plein d'essence dans son cas.
Je ne penserais pas. Olivier Beauregard, un grand merci encore une fois, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Absolument, merci, bye-bye.